L'actualité francophone avec Radio-Canada, France Inter, la RTBF en Belgique, la Radio-Télévision Suisse et Radio France Internationale. Au sommaire en Suisse, question sur la représentativité des femmes au sein du gouvernement. L'Afrique, le Sénégal, le 16e anniversaire du naufrage du Djola, 2000 morts, aucun procès, aucune condamnation. La Belgique risque une pénurie d'électricité cet hiver. En France, le débat relancé sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et puis le Canada, nouvel affrontement verbal entre le Premier ministre Justin Trudeau et Donald Trump. D'abord, les personnalités de la semaine sur le continent africain. Amélie Tulé, direction le Burkina Faso, un cultivateur burkinabé, a reçu le prix Nobel Alternatif 2018 pour son combat contre l'avancée du désert.
Oui, à 80 ans, Yacouba Sawadogo, surnommé l'homme qui arrête le désert, voit donc son travail récompensé. Dans sa province aride du nord du Burkina, il a mis au point le ZAI, une technique pour reboiser des zones infertiles. Le principe, creuser des trous en saison sèche et les remplir de débris organiques pour attirer les termites. Ces dernières creusent des galeries qui retiennent l'eau dans les sols. Avec le ZAI, Yacouba Sawadogo a planté une forêt d'une trentaine d'hectares et sa méthode est aujourd'hui utilisée au Sénégal, au Mali ou encore au Niger.
L'homme de la semaine en France, Manuel Valls, ancien Premier ministre, député de l'Essonne. Il sera candidat à la mairie de Barcelone en 2019. Il l'a annoncé mardi. Il a 56 ans, né à Barcelone. Ce fan du Barça a grandi à Paris et a été naturalisé français à 20 ans. Regard dur, répartie sèche, il a l'image d'un homme autoritaire, hostile à ce qu'il appelle la gauche passéiste, préférant un réformisme social libéral. Sa victoire au municipal de mai 2019 à Barcelone n'a pour l'heure rien d'une évidence. En Belgique, Anne Goderniot, portrait d'un diable rouge, Thibaut Courtois, le gardien de but de l'équipe nationale.
Déjà sacré meilleur gardien de la Coupe du Monde de football en Russie, il a été désigné cette semaine gardien de l'année par la FIFA, la Fédération internationale de football à Londres. Thibaut Courtois, 26 ans, c'est un peu le diable que tout le monde connaît, même ceux que le ballon rond n'intéresse pas. Il dispose d'un palmarès impressionnant, dont 67 sélections en équipe nationale. Le sélectionneur national salue d'ailleurs sa constance, son acharnement et son travail, sa contribution aussi vis-à-vis de l'équipe. Bref, un chouette et talentueux partenaire de jeu. Transféré du club de Chelsea au Real Madrid cet été, Thibaut Courtois succède au palmarès du trophée à l'italien Gianluigi Buffon.
Au Canada, Benoît Audet, l'homme de la semaine, c'est le Premier ministre d'une province de l'Atlantique.
Oui, Brian Gallant, il est toujours Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Je dis toujours parce que la province sort tout juste d'une élection très serrée. Le Parti libéral de Brian Gallant a obtenu un siège de moins que le Parti conservateur à l'Assemblée législative, mais il va tenter de se maintenir au pouvoir en tentant d'obtenir la confiance d'autres partis. Les conservateurs, eux, estiment que Brian Gallant n'a plus la légitimité pour gouverner et souhaitent que les députés soient rappelés au travail le plus rapidement possible pour être fixés sur le sort du gouvernement.
Et en Suisse, Laurent Caspary, ce n'est pas une, mais deux personnalités de la semaine.
Ferrarissime, ce n'est pas un, mais deux ministres qui ont présenté leur démission cette semaine en Suisse. Il y a eu tout d'abord mardi, Johann Schneider-Hamann, ministre de l'économie depuis 8 ans, discret mais dont la francophonie se souvient sans doute puisqu'il a fait un buzz mondial avec une phrase restée célèbre, « Rire, c'est bon pour la santé », dite sur un ton ultra monocorde. Et puis ce jeudi, rebelote, c'est la ministre des Transports, Doris Leuthard, qui a annoncé se retirer après 12 ans passés au gouvernement. Doris Leuthard, de la droite à la gauche, toute la classe politique salue son bilan. Doris Leuthard, symbole du consensus helvétique.
L'actualité en Belgique. La Belgique peut être plongée dans le noir cet hiver. 6 des 7 réacteurs nucléaires belges seront en effet indisponibles dès le mois de novembre. Anne Goderniot.
Oui, la situation est réellement préoccupante. Selon les informations fournies par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, il manque environ 1000 mégawatts pour se mettre à l'abri de coupures de courant durant cet hiver. Très rapidement, la ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marguem, a rejeté toute responsabilité quant à cette menace de pénurie. Montrée du doigt par l'opposition, elle s'est défendue en attaquant Electrabel, le producteur d'électricité. Selon elle, les prévisions concernant le fonctionnement des centrales étaient était bonne il y a encore quelques semaines. Elle accuse donc Electrabel d'être à l'origine du problème. Du coup, s'il faut acheter de l'électricité à l'étranger, elle a sa petite idée quant à celui qui devra payer.
J'estime que l'impact sur la facture doit pouvoir être pris en compte dans la responsabilité de l'opérateur si des solutions ne sont pas trouvées. Et avec le gouvernement, nous analysons juridiquement cette situation.
Donc c'est Engie Electrabel qui va absorber ces coûts ?
Nous analysons juridiquement cette situation et le lien de causalité dans une responsabilité que nous estimons évidente de l'opérateur par rapport à cette situation, sachant bien, je le répète, que tout le monde sait quand l'hiver arrive.
Un point de vue qu'Electrabel a très vite contesté. Electrabel, groupe privé français, veut bien chercher des solutions, mais de là à endosser le poids de la crise, ça c'est autre chose.
Alors Anne, très concrètement, que va-t-il se passer s'il n'y a pas assez d'électricité ?
Alors, il existe un plan de délestage. Toutes les rues du pays ont été classées par tranches, 8 tranches au total. Si le gouvernement constate un manque d'électricité, on va d'abord couper le courant dans la tranche 8, qui touche le moins de monde. Si le lendemain, on doit à nouveau procéder à un délestage, ce sont les rues situées dans la zone 7 qui verront leur électricité coupée, et ainsi de suite. Des coupures entre 17 et 20 heures, ce qui correspond au pic de consommation. Certains clients seront évidemment préservés, comme les hôpitaux et les services de secours.
En France, un avis très attendu mardi, celui du Comité consultatif national d'éthique sur la procréation médicalement assistée et l'euthanasie. Ce comité note que l'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte, même si les raisons ne sont pas biologiques. Il se dit donc favorable à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Actuellement, chez nous, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels dont l'infertilité est médicalement constatée. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était prononcé pour l'élargissement de la PMA. Réaction très hostile dès cette semaine de l'Église catholique et de la Manif pour tous, organisation qui s'était mobilisée il y a 5 ans contre le mariage homosexuel. Manifestation dès mardi soir à Paris.
On est à la fin d'une civilisation aujourd'hui, mais personne ne s'en rend compte.
L'important, c'est de s'affirmer et de défendre la présence des pères au sein d'une société qui est en déliquescence totale.
Ce que l'on veut, c'est qu'au départ, l'enfant ne soit pas déjà contraint de ne pas avoir de père et de vivre avec une femme, deux femmes.
Par ailleurs, dans son avis, le comité d'éthique dit son opposition à la gestation pour autrui, le recours à une mère porteuse, et juge que notre loi sur la fin de vie qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté ne doit pas être modifiée. En Belgique, la PMA est autorisée pour les femmes célibataires ou en couple homosexuel. L'euthanasie est légale en Belgique et le suicide assisté autorisé en Suisse. Les relations entre le Canada et les États-Unis ne sont pas très bonnes depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump il y a 1 an et demi. Les deux pays sont notamment engagés dans de difficiles négociations pour modifier l'accord de libre-échange nord-américain. Benoît Audet, c'est encore une fois le président américain qui a jeté de l'huile sur le feu cette semaine.
Oui, ça s'est passé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Donald Trump a dit qu'il avait refusé de rencontrer Justin Trudeau en raison des droits tarifaires sur les produits laitiers. Le Canada a répliqué en disant n'avoir jamais sollicité de tête-à-tête avec le président américain. De retour à Ottawa, le premier ministre Trudeau lui a répondu de vive voix en faisant référence aux négociations entourant l'accord de libre-échange. On l'écoute.
Les Américains trouvent que les négociations sont difficiles. Parce que les Canadiens, c'est des très bons négociateurs, comme on devrait l'être. Un accord qui est bon et juste est tout à fait possible. On ne signera pas un mauvais deal pour les Canadiens.
Benoît Audet, donc on semble s'entendre sur une chose au moins, les négociations sont vraiment difficiles.
Oui, elles ont commencé il y a un peu plus d'un an. Au départ, c'était des négociations tripartites entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. La renégociation de cet accord était une promesse phare de Donald Trump. Mexico et Washington ont déjà conclu un accord sur les chapitres qui les touchent directement. Maintenant, c'est au tour des Canadiens et des Américains de tenter de s'entendre pour sauver l'accord de libre-échange nord-américain. Il y a eu de nombreuses séances de négociations, mais toujours pas d'entente. On croit que ce sera très difficile d'y arriver et de présenter un texte au Congrès à temps pour les élections de mi-mandat.
L'actualité en Afrique, Amélie Tulé, au Sénégal. C'était cette semaine le 16e anniversaire du naufrage du Djola.
Oui, c'est à ce jour la pire catastrophe maritime civile connue. 2000 morts selon le bilan officiel, bien plus selon les associations de victimes. Le Djola faisait la liaison entre Ziguinchor en Casamance dans le sud du Sénégal et Dakar, la capitale. Le 26 septembre 2002, en pleine tempête et en pleine nuit, le bateau se retourne et sombre à 40 km de la côte. Un bateau surchargé, 4 fois plus de passagers qu'autorisés. L'alerte est donnée trop tard. Quand les secours arrivent, seulement une soixantaine de rescapés ont pu s'en sortir. Les corps des victimes n'ont jamais été remontés à la surface. Awa a perdu sa mère et ses 2 frères dans ce naufrage.
Je ne sais pas où elle est parce qu'on n'a pas vu le corps. Ça fait mal, c'est ça qui me fait mal.
16 ans après, les familles demandent toujours le renflouement du Djola. Lamine Beng avait 9 ans lorsqu'il a perdu son père et il en veut toujours à l'État sénégalais.
C'est ça qu'il a voulu, hein. C'est ça qu'il a toujours voulu, que les Sénégalais oublient ce naufrage. Mais nous, familles victimes, c'est impossible qu'on oublie cela parce qu'un accident qui a provoqué plus de 2000 morts, c'est impossible, franchement.
Les familles se battent pour qu'une enquête soit menée. 16 années après le naufrage du Djola, aucun responsable n'a été jugé et condamné. Le président sénégalais Macky Sall a évoqué la construction d'un mémorial à Ziguinchor, mais il n'a rien dit sur un éventuel procès.
La Suisse maintenant revient sur une double démission au gouvernement, un événement qui remet sur la table la question des femmes à la tête du pays, Laurent Caspary.
Oui, parce qu'avec le départ de la chrétienne sociale Doris Leuthard, il n'y a plus qu'une seule femme au gouvernement suisse. Le Conseil fédéral, qui est composé de 7 membres, des membres qui sont élus par le Parlement, composé lui aux 2/3 de mâles. Or, il pèse sur ce Parlement une pression sociétale extrêmement forte. Ne pas élire au moins une femme sur les 2 postes qui sont à repourvoir n'est tout simplement pas envisageable. Ce serait un affront fait aux femmes. Les femmes qui font de plus en plus entendre leur voix. Il y a une dizaine de jours, elles sont descendues dans la rue en masse. 20 000 personnes étaient réunies sur la place fédérale à Berne pour protester contre la différence de salaire entre les hommes et les femmes. 20 000 personnes, c'est une belle manifestation à l'échelle suisse.
Laurent, pourtant les femmes ont déjà été majoritaires au gouvernement suisse.
Oui, une année, pas plus, entre 2010 et 2011. Il y avait 4 femmes au Conseil fédéral pour 3 hommes. C'était une première dans l'histoire du pays. Et ce Conseil fédéral, à majorité féminine, a d'ailleurs pris une décision historique, celle de débarrasser le pays de l'énergie nucléaire et donc de miser sur les énergies renouvelables. Nous étions certes juste après la catastrophe de Fukushima. Il n'empêche, de nombreux observateurs notent que cette majorité de femmes au gouvernement avait été déterminante au moment de prendre cette décision courageuse. C'est le 5 décembre prochain qu'a lieu l'élection qui désignera les 2 nouveaux ministres.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.